Lors de l'éloge funèbre du commentateur politique Charlie Kirk, le président des États-Unis a ressenti le besoin de dire qu'il avait compris pourquoi les cas d'autisme étaient en augmentation et qu'il était prêt à faire une déclaration à ce sujet le lendemain. Mettons de côté une seconde à quel point cette déclaration peut paraître folle. Environ 24 heures plus tard, nous avons fini par assister à une conférence de presse avec Donald J. Trump, RFK Jr. et le Dr. Oz, mon partenaire idéal. Je ne suis pas tout à fait sûr que RFK sache réellement ce qu'est l'autisme, étant donné qu'il a déclaré il y a quelques mois à peine que l'autisme détruit les familles. Et ce sont des enfants qui ne paieront jamais d'impôts. Ils n'auront jamais d'emploi. Ils ne joueront jamais au baseball. Ils n'écriront jamais de poèmes. Ils ne sortiront jamais avec quelqu'un. Et nous devons reconnaître que nous faisons subir cela à nos enfants. Peut-être que l'autisme n'est en fait qu'un stratagème d'évasion fiscale de l'élite. Je ne sais pas, personne ne me l'a dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lors de cette conférence de presse, il a affirmé que la prévalence de l'autisme avait été multipliée par 5 aux États-Unis au cours des dernières décennies seulement. Lors de la même conférence, nous avons également eu la grande révélation, à savoir que l'augmentation de l'autisme que nous avons observée au cours des dernières décennies est due en grande partie à une cause mystérieuse, une toxine environnementale. Cette toxine a été dite, eh bien, voyons comment on dit ça. Paracétamol. Paracétamol. C'est bon ? Tout ça à cause du paracétamol. D'accord. Si vous êtes en dehors de l'Amérique du Nord, vous le connaissez probablement sous le nom de paracétamol. Si vous êtes en Amérique du Nord, vous le connaissez probablement sous le nom de Tylenol, qui est la marque la plus populaire qui le produit. Je vais d'ailleurs utiliser tous ces noms de manière interchangeable. Mais oui, c'est un médicament incroyablement populaire et c'est le seul qu'on vous conseille actuellement de prendre pendant la grossesse. Mais on dit que le fait de le prendre pendant la grossesse est en grande partie responsable du tisum chez les enfants. Lors de cette même conférence de presse, le président a également affirmé que Cuba n'avait pas de Tylenol parce qu'il n'avait pas l'argent pour lutter contre le Tylenol et qu'il n'avait pratiquement pas d'autisme. D'accord, parlez-moi de ça. Et pour la grande majorité des pressions, le président n'a mentionné que le nom de marque Tylenol, qui n'est qu'une des marques qui produisent ce médicament. Je ne sais pas. Peut-être que les autres marques n'ajoutent pas l'autisme avant de l'expédier. Mais en mettant cela de côté, il semble évidemment assez ridicule que le paracétamol ait donné l'autisme aux enfants. Mais qui sait, peut-être ont-ils raison. D'accord, il y a beaucoup de découvertes qui sont faites tout le temps qui semblent absolument ridicules au début et qui finissent par être légitimées. Vous savez, peut-être que Donald J. Trump et RFK sont nos Galilées des temps modernes et qu'ils sont simplement persécutés parce que nous ne sommes pas prêts à entendre la vérité. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre si c'est le cas, n'est-ce pas ? Essayons. Essayons de comprendre pourquoi tout le monde est autiste maintenant. Maintenant, la première question à se poser est, l'autisme est-il réellement en augmentation comme le prétend RFK ? Et la réponse courte est oui. Je veux dire, des pays comme le Royaume-Uni jusqu'au Japon, il y a eu une augmentation constante du nombre de personnes, en particulier d'enfants, diagnostiqués autistes. Le nombre de personnes en Angleterre et en Irlande du Nord diagnostiquées autistes a augmenté de 787% au cours des 20 années précédant 2018. Aux États-Unis, la hausse a été tout aussi importante et il existe des statistiques similaires pour pratiquement tous les pays riches. La vraie question est de savoir pourquoi, n'est-ce pas ? Est-ce le paracétamol ? Quelle est la valeur de la théorie du Tylenol ? Eh bien, la première chose qui mérite d'être mentionnée est qu'il y a une très bonne raison pour laquelle nous avons cette explication maintenant. En avril, RFK s'est engagé à trouver la cause de l'autisme d'ici septembre. Et la date limite approchait à grands pas. Un peu comme un enfant qui a remis à plus tard ses devoirs, il faut rendre quelque chose, n'est-ce pas ? Et si vous aviez regardé cette conférence de presse, vous auriez eu l'impression que ce médicament est fondamentalement le seul facteur environnemental majeur à l'origine de l'augmentation des cas d'autisme. Les mots de Donald Trump étaient assez clairs. Ne prenez pas de Tylenol. N'en prenez pas. Battez-vous comme des diables pour ne pas en prendre. Et le site web de la Maison Blanche a même mis en ligne une page qui semble étayer cette affirmation. Ils ont une page intitulée « Des faits et des preuves suggèrent un lien entre l'acétaminophène et l'autisme ». Et j'adore le fait qu'il s'agisse d'un communiqué de presse officiel de la Maison Blanche, car il ressemble à une diatribe déjantée sur Twitter. Voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, le président Donald J. Trump s'est joint aux responsables de l'administration pour annoncer des progrès majeurs dans la compréhension des causes profondes de l'autisme, dont les diagnostics ont explosé au cours des deux dernières décennies, et dévoiler de nouvelles initiatives audacieuses pour lutter contre l'épidémie d'autisme. Comme on pouvait s'y attendre, les fausses nouvelles se sont immédiatement mises à déverser leur frénésie de calomnie, de déformations et de mensonges habituels. Ces gens ont des armes nucléaires. Mais bon, de toute façon, plus tard, ils ont établi un lien avec quelques études, n'est-ce pas ? Comme celle de ce professeur qui a déclaré un jour au tribunal qu'il existait des preuves substantielles étayant une forte association causale positive entre le paracétamol et l'autisme. Cependant, il s'est avéré qu'il avait été payé 150 000 dollars pour témoigner au tribunal dans le cadre d'un procès contre Tylenol en tant que témoin expert. Et puis le juge a fini par rejeter son témoignage parce qu'il a estimé que le docteur Baccarelli avait trié sur le volet et déformé les résultats de l'étude et que son témoignage n'était pas fiable. Alors peut-être que ce type n'est pas la source la plus fiable, n'est-ce pas? Mais peut-être que le reste des preuves l'est. Légitime. Une des autres études qu'ils ont citées était une revue des cordons ombilicaux de mère qui les avait données pour une étude scientifique. Ils ont examiné ces cordons ombilicaux pour rechercher des résidus de produits chimiques provenant de la prise de paracétamol et ont trouvé une corrélation entre les deux. Cela pourrait facilement être dû au fait que le médicament provoquait effectivement l'autisme. Mais cela pourrait aussi simplement être dû au fait que les femmes enceintes qui prennent des analgésiques sont probablement en moins bonne santé de toute façon, et être en mauvaise santé augmente les risques d'avoir un enfant autiste, ainsi que les risques de prendre des analgésiques. Et c'est un problème assez bien connu dans la recherche sur l'autisme. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Vous ne devriez pas. Je ne suis pas médecin, d'accord? Mais il y a de vrais scientifiques qui travaillent sur ce sujet au quotidien. Victor Alqvist est un épidémiologiste qui a récemment publié une étude sur l'autisme qui portait sur des millions d'enfants. Et il dit ouvertement que les ajustements qu'ils font dans ces études sont rarement suffisants pour expliquer cela. Des facteurs de confusion comme une mauvaise santé préexistante qui expliquent à la fois une utilisation plus élevée de Tylenol et des taux d'autisme plus élevés. Aucun des articles publiés sur le site web de la Maison Blanche ne soutient réellement l'argument principal avancé par le président sur scène, à savoir que ce médicament spécifique est sans doute le facteur environnemental le plus important pour expliquer l'augmentation de l'autisme au cours des 20 dernières années. Mais heureusement, nous n'avons pas besoin de nous fier à la Maison Blanche et nous pouvons utiliser des sources d'information woke. Voyons donc ce que les scientifiques spécialistes des fausses nouvelles ont à dire à ce sujet. D'accord. La recherche la plus approfondie sur le sujet provient d'une étude suédoise publiée l'année dernière. Ces chercheurs ont examiné 2,5 millions d'enfants nés entre 1995 et 2019 afin de répondre à cette question. Et c'est de loin la plus grande étude de ce type. Cette étude a été menée en Suède, et il y a de très bonnes raisons pour lesquelles la Suède est un endroit idéal pour trouver une réponse à cette question. Question. L'un des plus gros problèmes liés à l'utilisation du paracétamol est qu'il est extrêmement populaire et qu'il est également vendu sans ordonnance, ce qui rend très difficile de déterminer la quantité de produits réellement consommés par les personnes et si elles en consomment réellement. Cependant, comme la Scandinavie dispose d'un système de santé largement accessible, la majorité du paracétamol est délivrée sur ordonnance. Vous pouvez donc suivre beaucoup plus précisément qui en consomme au lieu de vous fier à la mémoire des personnes. Et lorsque vous observez un pays comme la Suède, vous obtenez des résultats assez intéressants. Au début, les enfants exposés au paracétamol semblaient plus susceptibles d'être autistes. Mais lorsque vous ajoutez les frères et sœurs au mélange, le tableau commence à être vraiment différent. Ainsi, étant donné que les frères et sœurs partagent une grande partie du code génétique et qu'ils partagent des environnements presque identiques, vous pouvez en fait obtenir des données beaucoup plus fiables sur ce sujet. Vous pouvez examiner certaines familles et comparer les frères et sœurs qui ont été exposés au Tylenol pendant la grossesse et comparer les frères et sœurs qui n'y ont pas été exposés pendant la grossesse. Et si le paracétamol, le Tylenol est le facteur le plus important en jeu, on pourrait donc s'attendre à ce que les frères et sœurs exposés aux médicaments soient beaucoup plus souvent atteints d'autisme. Mais lorsque les chercheurs effectuent ces contrôles entre frères et sœurs, l'effet de l'exposition au Tylenol disparaît complètement, n'est-ce pas? Ce qui semble suggérer qu'il est assez bas dans la liste des causes de l'autisme. Il s'agit presque certainement d'autre chose. Potentiellement, le fait que les parents atteints de troubles neurodéveloppementaux soient plus susceptibles de prendre du paracétamol pendant la grossesse, et que leurs enfants soient donc génétiquement plus susceptibles d'hériter de ces troubles, ainsi que le simple fait de prendre des analgésiques lorsque l'on ne se sent pas bien, et si l'on ne se sent pas bien et que l'on a de la fièvre, on est beaucoup plus susceptible de transmettre certaines maladies à son enfant. En réalité, le schéma que l'on observe lorsque l'on examine les preuves est que plus les preuves sont de qualité, moins on a de chances de trouver une association entre les deux. Si l'on examine ces études qui portent sur des millions ou des centaines de milliers d'enfants et qui utilisent des données probantes, on peut s'attendre à ce que les enfants soient plus susceptibles de développer des troubles neurodéveloppementaux. Les contrôles des frères et sœurs et les données de prescription, alors le lien est extrêmement rare. Et écoutez, d'accord, si je peux trouver ça, je pense que le gouvernement américain devrait pouvoir le faire. Il y a comme toute une industrie de chercheurs sur l'autisme et ce n'est pas comme s'il était assis là à attendre que RFK le découvre pour eux, n'est-ce pas? Ils ont déjà plein de théories et d'explications sur la raison pour laquelle l'autisme est en hausse depuis quelques décennies. Maintenant, il faut être clair, il n'y a pas vraiment de raison unique pour laquelle l'autisme est en hausse, mais le fait est que la façon dont il est diagnostiqué a considérablement changé au fil des ans. Et cela a certainement contribué. À tout point de vue, l'autisme est une maladie assez récente. Donc, il a été décrit pour la première fois en 1943, mais il n'a été pleinement reconnu médicalement qu'après son inclusion dans la troisième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, en 1980, ce qui signifie d'ailleurs que l'autisme a 34 ans de moins que l'actuel président de la Fédération internationale des médecins et chirurgiens, États-Unis. Mais oui, le DSM est en quelque sorte le principal guide pour diagnostiquer les troubles de santé mentale. En gros, chaque trouble officiel est décrit en détail, ainsi que les critères pour obtenir un diagnostic. Et depuis la création de la version originale, de nombreuses nouvelles versions ont été publiées au fil des ans. Chacune d'entre elles a en fait élargi la définition pour couvrir des cas qui ne correspondaient pas strictement à la définition originale, mais qui présentaient beaucoup des mêmes symptômes et comportements et répondaient à beaucoup des mêmes traitements. L'autisme a ce genre de problème depuis un certain temps maintenant. Si vous essayez de créer une définition vraiment stricte, vous vous retrouvez toujours avec un nombre décent de personnes qui se trouvent en marge de cette définition et où les médecins peuvent souvent ne pas être d'accord sur le fait qu'une personne spécifique soit autiste ou non. Par exemple, si vous étiez un enfant dans les années 80, vous auriez besoin d'avoir une famille ou des enseignants capables de reconnaître cette maladie relativement nouvelle et vous devriez répondre à un ensemble de critères très spécifiques pour obtenir un diagnostic. Donc, les critères que vous deviez remplir dans les années 80 auraient été tout d'abord un fonctionnement anormal avant l'âge de 30 mois. Il faut un manque généralisé de réactivité envers les autres. Il faut des déficits flagrants dans le développement du langage. Et si la parole se développe, il faut que vous ayez des anomalies dans le contenu, la forme ou le rythme. Vous devez montrer des réactions bizarres à des aspects de l'environnement et une résistance au changement ou une insistance sur la similitude, y compris des mouvements moteurs stéréotypés. Et il faudrait également que vous ne souffriez pas de schizophrénie infantile, car beaucoup de ces symptômes pourraient également s'expliquer par la schizophrénie infantile. Si vous manquiez ne serait-ce qu'un seul de ces points de diagnostic, vous ne pourriez pas obtenir de diagnostic d'autisme du tout dans les années 80. Et soyons réalistes, d'accord ? Soyons réalistes. J'ai l'impression que tout le monde a un oncle, un cousin ou un grand-parent qui n'a pas de diagnostic d'autisme, mais qui est le genre de personne qui s'effondre si les haricots et les pommes de terre se touchent dans son assiette. Il y a beaucoup de choses non diagnostiquées, en particulier chez les personnes âgées. Soyons réalistes, d'accord ? C'est ça. Évidemment, c'est quelque chose avec lequel la plupart des gens seraient d'accord. J'ai peut-être tort, mais oui, aujourd'hui, le processus de diagnostic de l'autisme est beaucoup plus large. Et même le nom le résume. Ce qui était connu sous le nom de trouble autistique dans les années 80 est maintenant appelé trouble du spectre autistique, TSA. Et cela tient compte du fait que certaines personnes auront besoin d'un soutien relativement minimal tandis que d'autres auront besoin d'une aide 24 heures sur 24 pour être fonctionnelles. Vous savez, l'autisme n'est pas comme le cancer du poumon ou quelque chose pour lequel vous pouvez faire passer une IRM et dire que c'est l'autisme. Aujourd'hui, les critères de diagnostic exigent en fait que vous ayez certains types de déficits dans votre vie quotidienne. Et cela peut aller du niveau 1 au niveau 3 de l'autisme en fonction de l'impact de ces déficits sur votre vie quotidienne. Vous devez également présenter seulement 2 symptômes sur 4 dans une certaine catégorie, contrairement à la nécessité de présenter tous les symptômes d'une liste comme c'était le cas dans les années 80. Presque tous les enfants qui ont été diagnostiqués par l'ancien système ont été diagnostiqués par l'ancien système. Les critères d'autisme répondraient également aux nouveaux critères, mais ces derniers élargissent considérablement la portée du diagnostic et permettent à davantage de personnes de recevoir un diagnostic pour cette raison. Ils permettent également à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un traitement et d'un soutien qui améliore leur vie. Et tout cela sans même tenir compte du fait que les parents et les enseignants sont bien plus susceptibles de reconnaître l'autisme aujourd'hui qu'auparavant. La définition de l'autisme est devenue plus large, car les premières définitions laissaient de côté des personnes qui auraient réagi positivement au traitement et au diagnostic. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Il existe de vrais scientifiques qui travaillent sur ce sujet, d'accord ? Une autre étude danoise a examiné plus de 600 000 enfants nés entre 1980 et 1991. Ils ont conçu un modèle statistique spécifique pour prédire quels seraient les taux d'autisme si les critères de diagnostic n'avaient pas été mis à jour au fil du temps. Ils ont comparé cela à la réalité et ont constaté que 60% de l'augmentation des diagnostics au Danemark pouvait s'expliquer uniquement par le changement des critères de diagnostic en général. Nous comprenons, l'autisme est bien mieux compris aujourd'hui que dans les années 80. Vous savez, les enseignants, les parents et les enfants le comprennent tous mieux. Mais même en ignorant cela, le simple fait que le mot autisme ait changé de sens aujourd'hui a eu un impact énorme sur le nombre de personnes diagnostiquées. Et à mon avis, la preuve la plus convaincante que l'épidémie d'autisme n'est pas vraiment une épidémie vient aussi des pays nordiques. Il semble avoir de très bonnes recherches sur l'autisme là-bas. Mais en gros, si vous avez des jumeaux en Suède, ils vous inviteront à participer à une étude à vie. Vous ferez une série d'entretiens téléphoniques et de formulaires en ligne afin d'aider les scientifiques à mieux comprendre la santé mentale et plus particulièrement les problèmes neurodéveloppementaux. Si vous avez des jumeaux, ils vous appelleront lorsque vos jumeaux auront 9, 15, 18 et 24 ans pour comprendre comment vont vos enfants et pour constituer une base de données d'informations qu'ils pourront utiliser pour mieux comprendre toutes sortes de pathologies différentes, n'est-ce pas? Et l'enquête qu'ils utilisent contient 12 questions spécifiquement conçues pour évaluer les symptômes comportementaux de l'autisme et évaluer leur évolution au fil du temps. La conclusion vraiment intéressante de cette étude, qui a porté sur environ 10 000 jumeaux, est que les jeunes de 18 ans étaient tout aussi susceptibles de présenter des symptômes d'autisme en 1993 qu'en 2001. Ainsi, même si les diagnostics ont augmenté et que davantage d'enfants ont été diagnostiqués autistes, les comportements autistiques n'étaient pas plus fréquents en 2001 qu'en 1993, ce qui semble indiquer que les taux de symptômes autistiques réels dans la population n'ont pas changé. Il s'agit uniquement des taux de diagnostic formels, et il s'agit d'une étude menée dans un seul pays, n'est-ce pas? Cela n'explique pas tout pour le monde entier, mais cela montre clairement que la majeure partie de l'augmentation des diagnostics d'autisme est comme un artefact, l'autisme étant une chose fondamentalement différente en 2025 de ce qu'il était en 1990. Et en fin de compte, c'est l'une de ces choses où il n'y a pas une seule réponse claire qui explique tout. Il y a un bon argument selon lequel les gens ont des enfants très tard maintenant, en particulier aux États-Unis, et cela entraîne une augmentation de toutes sortes de maladies, où il y a des liens qui ont été établis entre la pollution de l'air et la prévalence de l'autisme. Et vous savez, je ne suis pas médecin, et je ne suis pas contre les explications alternatives. Mais quand vous obtenez une explication alternative, vous devez, d'une certaine manière, prendre en compte qui vous donne l'information, n'est-ce pas? Dans ce cas du Tylenol, ce n'est pas une université, un organisme de santé publique ou même un psychologue voyou qui dit ça. C'est Donald J. Trump, l'homme qui a affirmé que les Cubains étaient trop fauchés pour être autistes. C'est RFK, qui affirme que la Food and Drug Administration a supprimé les recherches sur le lait cru. Et c'est le Dr. Oz qui a une page Wikipédia dédiée à toutes les fausses données scientifiques qu'il a promues au fil des ans. Et vous savez, au final, vous pourriez penser que, et alors, ce n'est pas si dangereux de dire aux femmes enceintes de ne pas prendre de Tylenol et de se battre comme des diables, comme le dit Donald Trump, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est plutôt dangereux parce que le paracétamol, le Tylenol est l'un des seuls analgésiques que l'on peut prendre si l'on est enceinte. Et je n'ai jamais été enceinte, mais cette merde semble assez douloureuse. Et si vous écartez une option comme celle-ci, vous poussez les gens à serrer les dents et à la supporter, ou à se tourner vers une alternative, potentiellement dangereuse ou non testée, comme le lait cru ou quelque chose comme ça, ce que cet homme a essayé de faire taire. Et personne n'y gagne vraiment, d'accord? Les gens en souffrent tout simplement. Et au final, s'il y a une chose que je dois dire, c'est de ne pas suivre les conseils médicaux de Donald Trump, mec. S'il vous plaît, d'accord? Parlez-en à votre vrai médecin dans le monde réel et ne suivez pas les conseils d'un type qui n'a clairement fait aucune préparation avant de se lancer. C'est ridicule, d'accord? Mais si vous le faites, je suis arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris un peu plus sur le Tessane. Je vous retrouve plus tard, d'accord? Au revoir.